stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour, nous vous retrouvons sur votre chère émission, L'écho des jeunes. J'espère que vous allez tous passer une bonne rentrée. Et non, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas les mêmes chroniqueurs que d'habitude. Nous sommes la version seconde génération, si on peut dire. Avant d'entreprendre un tour de table de présentation de nos chroniqueurs, nous allons vous introduire notre sujet du jour, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, événement incontournable de l'été. Nous allons faire sous forme de discussion, et non pas de chronique pour le moment, pour faire une sorte de période transition entre le groupe de chroniqueurs que vous aimiez tant et nous, que vous allez apprendre à découvrir. Maintenant, il est temps de nous présenter à vous, en espérant que vous continuerez à suivre les émissions de l'Écho des Jeunes, qui sont également disponibles sur les plateformes de streaming. Moi, je m'appelle Juliette Goertz, c'est mes débuts à la radio, alors je vous fais confiance pour ne pas me juger. Je suis en première au lycée Raoul Folrone Nevers, mais les cours ne seront pas le cœur de mes chroniques du tout. J'ai bien sûr des sujets de prédilection, la culture, les actualités, le social, mais ne vous inquiétez pas, je peux aussi sortir de ma zone de confort à l'occasion. J'essayerai même de le faire. Je suis très impliquée dans mes recherches, alors j'espère que je ne vous perdrai pas en route.
Bien le bonjour à tous et à toutes sur ce premier épisode. Je m'appelle Mathis et je vous présenterai tout au long de l'année des podcasts en tout genre sur le cinéma, l'actualité, l'histoire et bien d'autres encore. Je suis passionné d'histoire, d'archéologie et de tout ce qui touche à la politique. Je suis élève en première au lycée Raoul Folrone et membre à part entière de l'atelier Sciences Po. Et le journalisme est un projet d'orientation qui pourrait beaucoup me plaire. Donc c'est pour ça que j'ai accepté tout naturellement l'invitation pour la relève de l'émission.
Bonjour, je m'appelle Soraya Manuela d'Alberto. Je suis en première générale à Raoul Folrone. Je suis quelqu'un de très solaire, j'aime faire de nouvelles rencontres, je suis une grande passionnée de telenovela, PS, votez pour moi pour le CVL. J'espère passer une bonne année avec vous. Nous allons pouvoir entamer notre petite discussion sportive avec une première question. Que pensez-vous de l'innovation de la France en faisant les JO sur la Seine ?
Moi, si je peux prendre la parole, je pense que ça a permis déjà à la France de se démarquer des autres pays, puisqu'avant, les cérémonies se déroulaient dans des stades. Ça met en avant le fleuve de Paris, qui, je pense, est le cœur historique de la ville, et puis un endroit qui réunit beaucoup de bâtiments historiques. Donc Paris est central dans l'imaginaire de la France à l'étranger, et notamment la Seine. Bon, je pense immédiatement au Monstre à Paris, avec la chanson, mais ouais, c'est une petite référence comme ça. Et la Seine a aussi été mise en avant lors de la partie natation du triathlon dans la Seine. Bon, ça a fait un petit peu polémique avec toute la partie bactéries, etc. Mais n'empêche, ça représente quand même bien notre France. Et quand même, c'est un objet de culture que même si on le critique beaucoup, on adore.
Vous reconnaissez ? C'est Paris. Mon Paris. Et ça, là, ce sont les installations pour le prochain triathlon, qui sera notre vitrine pour les futurs JO. Les journalistes du monde entier seront là pour couvrir l'événement. On n'attend pas loin d'un millier de participants.
Bien plus que ça.
Moi, je pense que c'est un des éléments qui ont fait cette cérémonie des JO, et même de ces JO en entier, des JO mémorables. Je pense que la complexité sécuritaire, logistique, ralliée à la beauté et à l'histoire de la Seine, en fait, ont fait ce défilé à un moment historique et qu'on n'oubliera pas. C'est un événement qui a été millimétré à la perfection. Hein, la ville de Paris s'en vante et a bien raison. Tous les travaux qu'il y a eu, toutes les choses qui ont été mises en place.
Les installations,
pardon, ont fait de la réussite de cette mission impossible, un peu, parce que c'était quand même une mission impossible, organiser un triathlon dans un fleuve pluricentenaire.
Je suis bien d'accord. C'est une première fois, on n'a jamais vu ça.
Ben, on n'a jamais vu ça, puis on attendait, je fais partie de ces Français qu'Anne Hidalgo a appelé les peines à jouir, ceux qui n'y croyaient pas, et qui finalement ont été impressionnés par cette cérémonie mémorable, inoubliable.
Bah moi, personnellement, déjà, j'ai eu aussi des craintes. Est-ce qu'ils allaient vraiment réussir à le faire pendant les JO? Mais aussi, j'ai trouvé ça très innovateur et ça a aussi mis, du coup, en avant un atout de la France, je trouve. Parce que aussi, bah, pour les touristes, la culture française, c'est Paris, la Tour Eiffel, Oui Oui Baguette et aussi la Seine. Du coup, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous deux.
Pensez-vous que ces JO ont contribué à une amélioration ou une dégradation de la vision de la ville de Paris? Et si oui, de quelle façon?
Alors, je reprends la parole en première. Déjà, oui, parce que ça a amélioré l'organisation des transports dans Paris, donc ils sont déjà plutôt désordonnés le reste de l'année, avec les lignes de métro qui ferment, les bus, etc. Bon, je dis pas que tout était parfait, loin de là. Mais on a quand même fait un bel effort d'organisation sur plusieurs mois, plusieurs années, et c'était plutôt réussi. Ensuite, je pense que ça a amélioré la vision de la ville au niveau artistique. Donc Paris, historiquement, c'est quand même une ville d'art. On a eu beaucoup d'artistes très très connus dans notre ville, plus Montmartre. Mais là, j'avoue que les équipes artistiques de Thomas Joly ont quand même réussi à remettre au goût du jour la culture française et l'art français. Dans les cérémonies, que j'ai trouvées innovantes, originales. Bon, après, on en pense ce qu'on veut. Je sais que tout le monde n'a pas compris toutes les cérémonies, mais parfois, dans l'incompréhension, on trouve quelque chose qu'on adore. On n'est pas obligé de comprendre tout. Et il n'y a pas eu trop de dérapages médiatiques sur l'organisation. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est limité, on va dire. Puis les épreuves dans les lieux historiques, donc le château de Versailles avec le pentathlon moderne et les sports équestres. L'escrime et le taekwondo au Grand Palais et l'athlétisme, et le cyclisme sur route et le tir à l'arc aux Invalides, ça m'a quand même énormément impressionnée. Je trouve que réunir les sports et réunir les lieux historiques, c'était quand même un pari qui a été relevé.
Alors je pense que je pense que l'amélioration, la vision de la ville de Paris, c'est, je pense, en particulier pour les Français, parce que la ville de Paris à l'international est quand même déjà une belle ville. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays à l'étranger qui trouvent, qui ont la même vision que nous de la ville de Paris.
Ouais, en même temps, il y a beaucoup de parties de Paris qui leur sont occultées. Hein.
Oui, bon, voilà. oui, c'est sûr que Paris est un petit peu...
Ils n'ont pas les contraintes.
Voilà. Donc je pense que c'est une belle amélioration au sein de la France qu'ont apporté ces JO. Hein.
Moi, je trouve aussi qu'il y a une amélioration, du coup, tout ce qui est artistique et aussi la performance de nos sportifs qui ont pu rapporter tellement de médailles, que ce soit d'or ou d'argent. Je pense que ça a dû aussi mettre en valeur la ville, la France, selon surtout tout ce qui est touriste. Après, je pense que nous, personnellement, Français, on a dû être aussi un peu pour tout ce qui a été fait. Déçus de qu'est-ce qu'ils ont défait, parce que tout ce qui est transport en commun, j'ai bien remarqué que ça a été arrangé pendant les JO, mais la fin des JO, j'ai repris Paris, j'ai bien vu que le transport c'était plus la même chose.
Bon, j'avoue que moi j'étais pas sur place, alors je peux pas trop témoigner.
Moi, sur le peu de transport, là, c'était vraiment trop clean, vraiment tout parfait. Après, ça, c'est un peu dommage parce qu'on avait, la ville parfaite, incroyable. Et pour que cette ville soit autant parfaite, ils ont dû déloger, des SDF, des familles d'HLM. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent, surtout pour nettoyer la Seine, 1,4 milliard d'euros. Et je trouve ça quand même immense. Alors que quand les JO ont arrêté, tout ce qui était un peu, entre guillemets, mal est revenu dans l'ordre.
Oui, à part peut-être l'esprit des JO qui a continué à flotter pendant un petit moment, qui a été quand même utilisé assez bien par les personnes politiques du pays. Voilà. Oui, voilà. Mais bon, c'était quand même bien de faire perdurer le moment parce que moi, j'aurais eu du mal à le quitter comme ça, sans transition.
Après, on a quand même pu perdurer grâce aux Paralympiques aussi.
C'est vrai. On n'en parle pas assez, mais on en parlera aussi plus tard.
Pensez-vous que la France a pu montrer sa culture et son histoire et l'histoire des Jeux Olympiques à l'ouverture des Jeux ?
Déjà, moi je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu 23,24 millions de téléspectateurs tous réunis pour la cérémonie des Jeux Olympiques à la télé. C'est quand même énorme.
Immense, ouais, vraiment.
C'est vraiment un nombre énorme, on ne s'imagine pas. Moi-même, je l'ai regardé. Cette cérémonie a été baptisée la scène olympique. Donc, petit rappel à la scène, objet de culture. J'ai beaucoup aimé en fait, le format qu'ils ont fait, donc sous forme de tableaux, 13 ou 14 au total, qui mettaient en valeur l'art, l'artisanat, la mode, le cinéma, la littérature, la danse, la musique et l'histoire de France. Donc, je peux citer Aya Nakamura qui dansait avec la garde républicaine.
Le moment le plus incroyable, famous, je pense.
Qui interprète Charles Aznavour. Les évocations à la Révolution française qui ont fait polémique avec Marie-Antoinette et sa tête tranchée. Louis Vuitton. La Bibliothèque nationale française. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf qui a été interprété par Céline Dion sur la Tour Eiffel.
Ça, c'était beau, ça.
C'était amazing.
C'était très, très beau, ça. Comme conclusion. Après, il y avait des valeurs et des diversités culturelles. Il y avait déjà des évocations à l'homosexualité, mais pas que. Au drag queen, il y avait du breakdance, des musiques de tous horizons, du rap, du rock, de la pop. D'ailleurs, j'aimerais rappeler, en parlant de diversité, que la France a presque atteint la parité féminine cette année. Presque, pas tout à fait, en termes de sportifs. C'est quand même un symbole fort.
Ouais.
Parce qu'à la base, les Jeux Olympiques, c'était quand même des Jeux considérés comme masculins. Donc, c'est très, très fort. Et puis, c'est en rapport avec mon tableau préféré de la cérémonie, donc le tableau Sororité, qui mettait en valeur des femmes, des statues de femmes au bord de la Seine ayant marqué l'histoire.
Oui, Simone Veil.
Gisèle Halimi, Louise Michel, Olympe de Gouges, qu'on travaille au bac des Français cette année. Non, c'était...
Ne parlons pas du bac.
C'était très, très fort. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié.
Des femmes en or devant l'Assemblée nationale, devant l'espace public qui est... A priori envahie de statues d'hommes, ben voici 10 grandes figures de l'histoire de France, invisibilisées ou oubliées. Et c'est la Marseillaise qui les a fait émerger, ces héroïnes de la scène.
Et vous ?
Et moi ? cette cérémonie d'ouverture, alors je pense que déjà c'est la meilleure. On dit ça tous les ans, tous les 4 ans.
C'est un petit peu chauvin, un chouïa.
Et on dit ça tous les 4 ans, mais c'est la meilleure et parce que c'est nous qui l'avons faite, c'est la meilleure. Et parce que Thomas Joly, c'est un magicien. Qui a tout donné, qui a donné le meilleur de lui-même. Alors cette cérémonie, c'est une première. Hein. Et c'est, je pense, le plus grand défi qu'a eu à faire la ville de Paris en termes de sécurité et de logistique, si je ne me trompe pas.
Tout le monde qui avait, je pense que
oui,
c'était un vrai travail pour tout le monde en soi.
Je pense aussi que c'est un des plus grands événements en termes de visibilité que la ville a eu à gérer. D'ailleurs, peu de monde y croyait. Alors,
j'y croyais pas.
Je fais
partie des Français qui n'y croyaient pas. Voilà, critiquais depuis au moins avril.
les peines à jouir d'Hidalgo. Et dans tous les cas, les cérémonies sont entièrement sorties du lot. Bien que je trouve dommage qu'il y ait eu un peu le manque de visibilité pour la cérémonie paralympique. J'aurais bien aimé quand même une cérémonie commune où les athlètes défilent ensemble, ça aurait été...
Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça quand même dommage de diviser.
Même si
à la cérémonie d'ouverture, il y avait quand même beaucoup d'athlètes paralympiques qui faisaient le relais de la flamme, mais c'était pas non plus extrêmement tourné sur le handicap.
Oui.
On a souvent les paralympiques, je trouve, c'est pas que c'est un peu caché, mais on le voit moins, genre. Souvent, j'ai même vu qu'il y a souvent une baisse de 25% des spectateurs comparé aux...
C'était une période quand même un peu mal choisie, parce qu'on peut se dire que c'était fin août, début septembre, donc on était un petit peu pris.
La rentrée,
voilà, avec du boulot plein les poches. Je te laisse reprendre tes propos.
Céline Dion aussi, voilà, Céline Dion. ça fait 6 ans qu'on l'avait pas vue. Alors on parle de Céline Dion parce que on parle de Céline Dion quand même parce qu'il faut parler de Céline Dion. Moi j'adore Céline Dion. Hein, je suis
On a cru comprendre.
un grand fan. Non, c'était vraiment une cérémonie qu'on va pas oublier. Hein. Je souhaite bonne chance à Los Angeles dans 4 ans pour faire mieux.
Franchement,
ça sera dur.
Ça va voilà, être très compliqué.
Déjà, ils ont pas le fleuve et puis ils ont pas le pays entier. Voilà, hein, c'est un état.
Oui. Ils ont pas la scène, non.
Moi aussi, je trouve qu'ils ont pu. La France a pu montrer des choses incroyables sur sa culture. Eux-mêmes, que Lady Gaga ait pu chanter, c'était incroyable. Rappelons-nous de la chute du danseur.
Ah oui, il y a quand même eu quelques... Moi, je me rappelle aussi du membre de la garde républicaine qui était à fond dans son truc.
Mais j'étais tellement étonnée. Il a commencé à bouger. J'ai fait « Ah, ça tu fais !» Non, moi, je trouvais ça, du coup, incroyable, tout ce que la France a pu montrer, ou même que le défilé avec les bateaux et tous les pays, c'était vraiment incroyable. Et j'attends de voir qu'est-ce que Los Angeles pourra faire de mieux.
Je suis d'accord. Sauf le défilé, un peu long à mon avis, mais bon, faut quand même bien que les bateaux arrivent fort.
C'était un peu long.
Et à toi, Juliette, pose-nous ta question.
Une question qu'on a déjà un petit peu évoquée juste avant. Donc, je voulais vous demander si vous aviez appris des choses sur le handicap grâce aux Jeux Olympiques.
Moi, personnellement, quand même, j'ai appris des choses peut-être un peu futiles. C'est déjà que les Paralympiques et les JO, je ne passais pas en même temps. Je sais pas, pour moi, quand j'étais jeune, enfant, j'avais le souvenir que ça se passait en même temps, qu'il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas d'ouverture paralympique, d'ouverture des JO. Et aussi, une chose que j'ai appris, c'est selon les catégories des Paralympiques, comment ils font le sport. J'explique un peu mon raisonnement, genre selon leur handicap, ils ne les mettent pas au même moment, même si genre c'est basket, une personne peut-être qui lui manque une jambe, peut être avec possiblement aussi une personne qui est aveugle, ou inversement, c'est selon leurs conditions, et ça, je savais pas. Après, ça aussi, j'ai trouvé ça quand même dommage que, du coup, ils mettent pas en même temps, du coup, les Paralympiques et les JO. Je trouve que faire la différence, ça sert un peu à rien.
Oui, ça divise encore plus. Après, on n'est pas obligé de réunir les deux épreuves, mais elles peuvent être quand même sur la même période de temps.
Oui, c'est ça, genre...
Ce qui aurait pu accorder quand même plus de visibilité aux Jeux Paralympiques. Moi, je voulais rappeler que les Jeux Paralympiques, ils ne sont organisés que depuis 1960, soit 64 ans après les premiers Jeux Olympiques. Donc c'est quand même relativement récent.
C'est récent.
Parce que en fait, on n'imagine pas que les Jeux Olympiques se sont organisés la première fois aussi loin. Mais pour les Jeux Paralympiques, on n'imagine pas que c'est autant de temps après. Moi, j'ai appris des choses sur de nouvelles disciplines sportives. Par exemple, la boccia. Donc en fait, ça s'apparente à la pétanque et au curling. Et c'est réservé aux athlètes paralysés cérébraux. J'ai appris des choses sur le cécifoot ou le rugby fauteuil. Ouais. J'ai d'ailleurs assisté derrière mon écran à la finale du cécifoot.
On a gagné.
On a eu la médaille.
Trop fort.
Et j'ai trouvé que les compétitions étaient très intéressantes. Et surtout, les athlètes étaient admirables, en fait.
Ouais.
Leur façon de surpasser leurs handicaps en faisant du sport ou pour faire le sport qu'ils aiment. C'est une véritable preuve que les personnes handicapées, qu'elles soient atteintes d'un handicap physique ou mental, ne doivent pas être écartées de la société au titre de leur handicap. J'étais encore plus fière de faire partie du même pays que des personnes comme Aurélie Aubert, donc médaille d'or de la boccia, ou Hugo Didier, qui est un nageur émérite. D'ailleurs, on a pu remarquer que la ville de Paris était encore assez peu adaptée aux handicaps, finalement. Surtout les transports en commun, les métros. Les métros, il y en a quasiment... Je sais pas, il y en a 2 ou 3 qui ont des ascenseurs. Ouais. Mais après, c'est compliqué à aménager, on est obligé de le reconnaître. Ouais. Et en fait, les parasports, ils sont très peu représentés en France aussi, que ce soit à la télévision ou dans les clubs sportifs. En effet... Alors que le handicap, il touche 12 millions de personnes en France, on peut se demander pourquoi la diffusion du parasport à la télévision ne représente que 1% de la diffusion d'après l'ARCOM. C'est rien, en fait, 1%.
Vraiment...
On n'imagine pas, en fait. Mais moi, je dois avouer quand même que c'était la première fois que je voyais des parasports à la télé.
Ah oui, vraiment aussi. Moi aussi.
C'était ma première fois. Petite, je regardais, mais je pensais que c'était pareil que les JO. Genre, je ne savais même pas qu'il y avait cette différence de paralympique.
Oui, je suis d'accord. Et puis du coup, c'est regrettable qu'il y ait un manque de connaissances, de culture sur handicap, mais aussi en fait des peurs par rapport au handicap, qui est souvent vu comme une insulte, comme quelque chose qui ne peut pas nous unir. Mais le handicap, il est souvent pas choisi, mais il n'est même jamais choisi, en fait, le handicap. Et du coup, c'est quand même dommage d'écarter les personnes. Néanmoins, petite note positive, deux fois plus de Français ont suivi les Jeux paralympiques que lors de l'édition de 2020 à Tokyo, avec une durée moyenne d'écoute de plus de 5 heures par Français. Et 7,7 millions de personnes ont quand même suivi la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc c'est quand même une réussite. Ouais. Et j'espère que ça apportera plus de visibilité à l'avenir.
Moi, je voulais parler... j'ai appris plein de choses. J'ai vu des nouveaux sportifs, des nouveaux sports, très enrichissants. Hein, j'ai découvert. Je connaissais déjà un petit peu, mais je me suis renseigné. Philippe Croizon et sa performance dans la manche que je connaissais pas. Et j'ai regardé les vidéos. Ça m'a beaucoup touché. C'est vraiment incroyable, sa performance.
Moi, je la connais pas. Je dois quand même.
Philippe Croizon, donc un homme tronc qui a réussi à traverser la Manche à la nage. C'est vraiment incroyable. on a pris connaissance aussi de la, comme tu le disais, Juliette, de la complexité d'adapter une ville pluricentenaire à un événement ultra moderne comme celui-ci. En fait, on ne pense pas, on n'imagine pas tous les travaux. Les changements qu'on a dû faire dans les rues, dans les métros, dans les... je sais que c'est pas pour citer, mais je sais que Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et toutes les équipes de travail autour du transport et tout ça ont énormément travaillé sur les transports pour qu'ils soient accessibles pour les touristes et pour le tourisme et également pour qu'ils soient accessibles pour les personnes handicapées. Et c'est captivant le travail qu'on a pu donner pour cette cause-là, qui est une cause très importante et que je vous invite tous à soutenir.
Oui, et aussi à se renseigner. Ouais. Parce qu'en fait, on ignore beaucoup de choses.
C'est ça.
Moi, je connais quelques informations sur l'autisme, sur la trisomie, sur la paraplégie, etc. Mais en fait, il y a plein de handicaps qu'on ignore. Et on ignore comment aider les gens à vivre avec.
Mais même, il y a plein d'handicaps qu'on dit handicaps invisibles. Il y a des personnes, on ne sait du tout pas qu'ils ont des handicaps comme ça. Des fois, on a des mauvaises réactions ou autres, on ne sait même pas. Mais on se dit souvent, un handicap, il doit être visible. On va dans des grandes choses, alors que c'est des fois des toutes petites choses. Et ça handicape vraiment la personne. Et on ne s'imagine pas. Et on vit tout le temps avec elle. Et on ne se dit pas, ah, mais c'est une personne dans l'handicap. Et pourtant...
Ouais. Je suis bien d'accord. Donc, c'est à toi, Mathis, d'enchaîner sur ta question.
Ok. Alors, est-ce que vous pensez que l'on va se souvenir des JO de manière matérielle et ou symbolique?
Alors, moi, je pense qu'on va se souvenir des innovations, comme on en a déjà parlé.
La scène.
Voilà, la mise en valeur du patrimoine, des audiences records, les anneaux sur la tour Eiffel, de façon plus matérielle, et la vasque. Mais par contre, je vais vous parler de la vasque un petit peu plus amplement. Elle a été au jardin des Tuileries pendant toute la période des Jeux Olympiques. Donc elle a été dessinée par Mathieu Lehaneur dans son atelier à Ivry-sur-Seine. Elle a été dévoilée à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. Donc on se rappelle tous de la vasque qui s'élève dans le ciel avec les lumières derrière et du coup la chanson d'Edith Piaf reprise par Céline Dion. C'était magique.
Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau.
C'est tellement d'émotion.
Mathieu Lehaneur a imaginé cette vasque comme un symbole de liberté. Il conclut ainsi cette allégorie de la devise française, commencée avec la torche, égalité par sa symétrie, puis le chaudron, fraternité par son anneau, invitant au rassemblement. Grâce au musée du Louvre et à la ville de Paris, la vasque de Paris 2024 est installée au cœur de la ville, dont le jardin des Tuileries, sur une des plus belles perspectives.
Donc le public a pu admirer gratuitement la vasque pendant la période des JO et des Jeux paralympiques, de 11h à 19h. Quasiment gratuitement et pouvait s'inscrire. Le concepteur du vasque a demandé à ce que l'installation devienne permanente après la période des Jeux Olympiques, mais malheureusement, elle a quand même été dégonflée. Ainsi, le souvenir des Jeux de Paris restera l'un des plus mémorables sans doute, sans vouloir être trop chauvine encore une fois, et du moins pour un temps, avant que d'autres événements viennent immortaliser notre belle ville et un petit peu estomper le souvenir de cette belle été.
Moi je pense qu'on va s'en souvenir, hein. C'est comme tous les grands événements, on se souvient.
Il est en train de me contredire.
Non. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui va rester, peut-être pas matériellement, mais déjà symboliquement, on va s'en souvenir au niveau des valeurs qu'ils ont transmises. Et non, je pense pas qu'il va le souvenir va se transmettre, on va dire, de manière symbolique, comme on le voit, matériel, pardon, comme on le voit avec les conservations des vasques olympiques un peu partout en Espagne. Ils ont gardé les vasques olympiques. Mais je pense qu'on va se souvenir de tout ce côté moral, de tout ce côté les valeurs qu'on a pu apprendre.
L'esprit de groupe, c'est ce qui va rester. Quand même. L'esprit de groupe,
aussi.
Solidarité, et puis je pense à la solidarité entre les peuples. Ouais. Moi, je suis obligée de le rappeler, il n'y a que le sport qui permet d'unir les pays, comme on a pu le voir. Bon, il y a eu des problèmes, mais j'ai jamais vu autant de personnes réunies à chanter un hymne, à chanter en chœur le nom de leur pays, mais de façon presque gentille, en fait, de façon cordiale. Il n'y a que le sport qui permet ça.
Quand on voit le selfie des athlètes sud et nord-coréens ensemble, alors que c'est quelque chose que... on peut pas imaginer avec aucun autre valeur que le sport, que le sport, en fait. C'est beau, c'est très beau.
Moi, je pense que les JO, il y a beaucoup de choses qui est matériel, souvent tout ce qu'ils font, mais aussi les JO, ça reste un symbole, parce que les JO, c'est un sport qui arrive à rapprocher plein de pays, c'est un symbole de convivialité qui arrête les guerres. Bon, on n'a pas pu tout arrêter, mais c'est un esprit qui arrive à faire rapprocher des millions, mais des centaines de personnes pour partager une convivialité, une haine amicale de pays qui se battent. Il dit, vous les Canadiens, vous allez perdre. Non, c'est vous les Français qui allez perdre. Et c'est genre, je pense que c'est symbolique parce que c'est des moments que tu n'oublieras pas, que ce soit avec tes amis, ta famille ou d'autres personnes que tu ne connaissais même pas. Ou aussi pour les sportifs, d'avoir pu dépasser leurs limites, d'avoir pu faire tout ça et de pouvoir pas forcément repartir avec une médaille ou même d'avoir pu faire ça, d'avoir été là. Et vraiment, moi, je trouve ça incroyable. Ça restera pour moi un symbole magnifique, les JO, et que je pense qu'il faudra perdurer jusqu'à la fin des temps.
Oui, je pense qu'il faudra garder l'esprit des JO. Ouais. Et ça va être un enjeu, garder l'esprit des JO sans non plus camoufler la réalité, les réalités du pays.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas s'en servir comme un outil politique, mais plutôt comme un objectif en fait politique. Moi, je vais finir, comme je suis un petit peu méchante.
On va faire le petit roulement de tambour pour la dernière question.
Oui, si tu veux.
Sur une note négative, je pense. Mais qui peut être drôle, quand même. Oui. Donc les JO, ils sont, comme on l'a rappelé, ils sont historiquement un moment de convivialité et de paix entre les peuples. Même si cette entente n'est pas toujours respectée en dehors du pays d'accueil. De la même façon, malgré la réunion et l'espoir que permet l'événement sportif, certains sujets de controverse ont quand même réussi à émerger pendant la période des JO. Donc on peut en être témoin sur les réseaux sociaux divers et variés, à la presse. Donc je voulais vous demander lequel ou lesquels vous ont le plus marqué.
Je commence
tu commences.
La polémique qui m'a le plus marqué, alors c'est forcément celle de Philippe Catherine et son défilé de mode.
Plus de riches, plus de pauvres, quand on redevient tout nu.
Ça m'a beaucoup fait rire, parce que les remarques qu'on lui fait sont tout simplement enfantines d'un autre temps. Ça me fait beaucoup rire et à la fois ça me fait beaucoup peur. Ça me fait beaucoup rire que l'Église et le Vatican sautent sur la moindre occasion de créer des polémiques et c'est tellement stupide à propos des JO.
Juste pour rappeler le contexte de la polémique quand même, c'est que l'Église a déclaré que la scène qui avait été représentée dans le tableau avec Philippe Catherine, donc où il était tout nu, tout en bleu, avec beaucoup de personnes autour, notamment des drag queens, en fait représentait la scène, donc le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Mais ce fait a été quand même démenti par Thomas Joly, qui a dit que cela représentait un tableau qui lui-même représentait la mythologie grecque, oui. Et donc Dionysos.
Alors, d'un côté, je comprends que ça puisse offenser certaines cultures et religions, mais je ne vois absolument pas là un argument pour censurer et pour cacher, d'autant plus que, comme tu l'as dit, ce n'était pas la scène, mais c'était le festin des dieux, qui est un autre tableau, et qui n'a exactement aucun rapport avec la chrétienté, puisque c'est un tableau représentant les dieux de l'Olympe. Alors, c'est stupide, c'est drôle, puisque ça n'a affecté personne, pas même Philippe Cavrivienne, et ça n'a pas empêché de faire de ce défilé un concentré de valeurs sociales, d'inclusion et de diversité merveilleux et mémorable.
Après, ça me fait un peu rire, parce que techniquement, en plus, dans la charte des JO, ils n'ont pas le droit de faire de tout ce qui est choses religieuses, du coup, ça pouvait pas être tellement possible que ça soit ce tableau du dernier festin avec Jésus.
C'est vrai. Et puis c'est quand même, on doit quand même rappeler que au début, l'idée des JO, elle vient quand même de la Grèce antique, en fait. Donc ça paraît de revenir aux racines, c'est quand même quelque chose de très important. Puis la liberté d'expression aussi, quelque chose de très important dans notre pays. Donc on comprend les critiques. Mais quand même, ça nous laisse le droit de faire ce qu'on veut, sans offenser personne, évidemment. Moi, je voulais revenir sur une polémique, voire deux polémiques. D'abord, quelque chose qui m'a un petit peu heurté quand je l'ai appris. Derrière tout ce beau contexte des JO, ces valeurs qui sont transmises, en fait, j'ai appris qu'il y avait des SDF qui avaient été déplacés en juin 2024. Il y avait plus de 5224 personnes qui avaient été déplacées dans des sas d'accueil temporaires régionaux. Bon, quand même, ils sont pas déplacés pour être retournés dans un endroit mal famé, entre guillemets, mais
après,
quand même.
Après, je me dis, est-ce qu'ils ont réussi à déplacer tous les SDF, les
Alors, il y a des chances que probablement non. Ouais. Mais aussi, on a appris que ces structures, elles étaient parfois construites dans des endroits jugés indignes par les municipalités qui accueillent les structures. Et on doit quand même aussi citer le déplacement des étudiants qui étaient dans les logements en Crous.
Les logements en Crous, ça
qui ont été relogés quand même, mais en fait, ils n'avaient pas tellement de délai qui était prévu pour qu'ils soient relogés, donc ça a quand même semé le doute. Bon, on comprend pourquoi ils l'ont fait, mais il n'en reste que ça a été quand même très mal organisé et très mal prévu, puisque ceux qui étaient concernés ont été quand même prévus au dernier moment. Et la deuxième polémique dont je voulais vous parler, c'est la haine qu'a reçue Aya Nakamura, donc qui a chanté.
Mais horrible, alors que c'est une chanteuse incroyable, vraiment, ça m'a tellement étonnée. Non, c'est vrai, genre une grande polémique comme ça. Le pire, tout ce que les gens disaient, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai remarqué dans leurs exemples, c'est qu'il n'y avait rien de concret. Soit c'était des choses, non, mais elle ne parle pas bien français, non, mais il y a Aya Nakamura, tout ce qu'elle a fait avant avec, du coup, l'histoire de son mari, où il y a eu un jugement.
Oui, il y a eu des faits de violence entre les deux parties, elle et son mari. Mais en même temps, ça ne remet pas en cause en fait la visibilité qu'elle apporte à la France, à l'international. Oui. Hein, c'est la première artiste française diffusée à l'international. Même si les étrangers comprennent pas forcément ses paroles,
C'est du français.
Mais en fait, c'est du français. C'est du français parlé comme on le parle tous les jours. En fait, c'est du français c'est du français quotidien, du français qui peut être utilisé par nous les jeunes, par d'autres personnes. Donc après, il y a certaines personnes qui ont été offusquées que ce soit ce type de français-là qui soit utilisé. Néanmoins, c'est un français qui existe et on peut pas le nier en fait. Et la diversité d'origine, la diversité de culture, la façon dont on parle, la façon dont on s'habille. En fait, elle est différente pour chaque Français, pour chaque catégorie de Français, selon l'endroit où on vit, l'endroit où on est. Et du coup, je trouve ça quand même dommage de ne pas d'avoir critiqué Aya Nakamura, alors que ce n'était définitivement pas la seule artiste à représenter la France, mais qu'elle représente quand même un côté de la France. En fait, on ne peut pas le réfuter.
Un côté de la France, c'est ça.
Et donc, je pense qu'on a fini, non ?
Pour les questions.
Du moins pour les questions. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier d'avoir fait cette conversation avec moi.
Merci de nous avoir aussi écoutés.
À tous nos auditeurs.
J'espère que ça vous aura plu.
On espère que vous nous retrouverez dans un mois pour une nouvelle émission Radio L'Écho des Jeunes. Et puis tout de suite, on va lancer une petite pause musicale. Donc j'ai choisi l'hymne à l'amour.
Au revoir.
Au revoir.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, dans le bleu de toute l'immensité.